Bonjour David, bonjour à tous. Alors que les jours raccourcissent et que nous allons passer à l'heure d'hiver, cyclistes et trottinettes se doivent d'être bien visibles. Les crédits du gouvernement alloués au pacte de la haie devraient être amputés de plus de 70% dès l'an prochain par mesure d'économie. Incompréhension et inquiétude, notamment du côté de l'association Bocage Pays Branché. La seule distillerie de Sèvrienne est installée à la Forêt-sur-Sèvre, à l'initiative de deux passionnés. Coup de projecteur dans ce journal. C'est un étrange week-end qui se prépare à toi du 31 octobre au 2 novembre pour une 10e édition qui ravira de nouveau tous les amateurs de frissons. Invaincu en FIBA Europe Cup, Cholet Basket reçoit ce soir les Roumains de Cosenza, à suivre bien entendu en direct sur Colline. La météo, eh bien les éclaircies domineront notre après-midi. À l'heure où s'approche l'heure d'hiver et avec les jours qui diminuent, voir et être vu lorsqu'on est à vélo, vous le savez, c'est primordial. Et c'est pourquoi, la semaine dernière à Niort, sous l'égide de la préfecture des Deux-Sèvres, une opération de prévention en ce sens était organisée. Les forces de l'ordre et des représentants de la sécurité routière ont particulièrement visé cyclistes et autres utilisateurs de trottinettes. La préfète Emmanuelle Dubé participait également à cette action et avait un message à leur délivrer. Au micro de l'E4B.
Il commence à faire nuit plus tôt, c'est le changement d'heure le 27 octobre et qu'il est d'autant plus nécessaire qu'ils prennent les dispositions pour être bien visibles avec les lumières qui fonctionnent pour les vélos, si possible une chasuble jaune fluo ou d'autres moyens réfléchissants qui les signalent beaucoup mieux aux automobilistes. Et je rappelle qu'une partie de cet équipement est obligatoire lorsque c'est un véhicule de type trottinette électrique. Les conseils de partage de la route s'appliquent aussi aux automobilistes. Il n'y a pas que les cyclistes qui sont responsables de leur sécurité. C'est aussi à la charge des automobilistes d'être vigilants, de doubler avec au moins un mètre de distance avec le cycliste et de ralentir et rester derrière un vélo, même s'il est plus lent, s'ils n'ont pas la place de dépasser. Nous avons déjà, depuis le début de l'année, 8 accidents impliquant des vélos dans les Deux-Sèvres, dont un mortel le mois dernier.
Rappelons et rajoutons que si le port du casque n'est pas obligatoire, il est cependant fortement recommandé. Chaque année, on enregistre une augmentation des accidents de plus de 40% les jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver. Ce sera le cas, je vous le rappelle, dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Le gouvernement prévoit une baisse vertigineuse du budget consacré au pacte en faveur de la haie. Le chiffre parle de lui-même, moins 72%. Le projet de loi de finances taille sérieusement dans un budget qui passerait de 110 millions d'euros par an jusqu'à 2030 à seulement 30 millions par an à partir de 2025. Un coup de massue qui met en péril toute une dynamique enclenchée depuis plus d'un an par des centaines de structures de soutien à la haie et à l'agroforesterie. Localement, l'association Bocage Pays Branché incarne cette dynamique. Étienne Berger, directeur de l'association, ne masque pas sa très grande inquiétude devant ce projet de loi de finances qui plombe un pacte qui faisait consensus il y a quelques mois.
Ça fait un an aujourd'hui que l'État a reconnu effectivement tous les enjeux autour de la haie, la biodiversité, le maintien des sols, la qualité de l'eau, les problèmes autour d'inondation, la durabilité de l'agriculture. Donc cette coupe nous paraît injuste et très très difficile à supporter. On a mis en place depuis un an des forces vives très importantes au niveau national et à l'échelle des territoires en embauchant pour pouvoir mettre en évidence effectivement tout l'enjeu de planter, de restaurer, de gérer, puisque le pacte a des ambitions autour de la plantation mais aussi autour de la gestion et de la durabilité des paysages de bocage. Et donc pour nous c'est difficile à comprendre et c'est une coupe qui nous paraît tout à fait injuste. Qu'il y ait des efforts qui soient faits au niveau national, on l'a bien compris, que notre part soit actée, certes, mais 72% d'écrêtement, c'est la mort pour nous véritablement de ce dispositif. Ça pourrait remettre en question toute cette dynamique et nous faire perdre une dizaine d'années de travail.
Le signal serait également désastreux pour les milliers d'agriculteurs qui se sont engagés pour la plantation, la gestion durable et la valorisation des haies sur leur exploitation. Cette année, une trentaine de fermes du Bocage Bressuré ont engagé des plantations. Étienne Berger.
Ce pacte de la haie emmenait effectivement des actions autour de la plantation, mais aussi et surtout autour de la gestion de la valorisation, donc avec des possibilités effectivement d'investissement sur le territoire, de matériel cohérent pour la gestion, pour la mobilisation du bois, la possibilité de faire émerger des filières de consommation. Donc tout ça effectivement, c'est des signaux très 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 faibles au niveau des agriculteurs. Nous on est globalement effectivement, on travaille pour le monde agricole, pour les exploitations agricoles, sans cette manne financière, on risque de se retrouver avec encore plus de disparitions de haies, de difficultés de gestion et d'incohérences par rapport à tous les enjeux qu'on a déjà fait émerger, et particulièrement, je pense, pour le maintien des sols et la qualité même de ces sols. On est sur des territoires avec des sols très peu profonds, fragiles, les bocages ne sont pas là par hasard, sur nos vieilles montagnes, sur nos vieux massifs armoricains. C'est l'agriculture qui en pâtira à l'avenir.
Le réseau AFAC Agroforesterie, dont fait partie Bocage Pays Branché, mais aussi des structures comme la Fédération de Chasse ou la Chambre d'Agriculture. Le réseau active donc tous les moyens pour faire reculer le gouvernement. Les parlementaires, alertés ces jours-ci, sont appelés à porter des propositions d'amendements. Affaire à suivre. Le centre hospitalier Nord de Sèvres va ouvrir 10 lits en médecine polyvalente à compter du lundi 4 novembre afin de développer l'offre et de mieux répondre aux besoins des patients, a indiqué l'établissement. Tout en soulignant que les détails seraient présentés lors d'une conférence de presse le 30 octobre prochain. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Cornelius, retenez bien ce nom. C'est ainsi que se nomme la seule distillerie de Sèvrienne, ce qui a d'ailleurs valu à ses créateurs de la pugnacité et de la persévérance, car les autorités douanières en Deux-Sèvres n'étaient pas forcément au fait, malgré leur bonne volonté, des formalités à remplir pour obtenir le statut d'entrepositaire agréé. Mais après 2 ans de démarche, Nathalie de Fombelle et Frédéric Merlet commercialisent enfin leur première bouteille de gin, de pastis, de liqueur fruitée. Un vrai délice pour les fines bouches. D'ailleurs, les ventes directes et le bouche à oreille suffisent pour le moment à écouler la production réalisée dans le domaine du château de la Forêt-sur-Sèvre. Les deux compères, après des carrières professionnelles riches et abouties, se sont lancés avec délectation. Nathalie de Fombelle.
Travailler sur un produit qui est assez qualitatif, sur quelque chose qui dans la gastronomie, dans l'idée de se faire plaisir, une certaine idée du luxe en fait, mais d'un luxe simple, d'un luxe artisanal. Et donc c'est vrai que quand on a mis toutes nos idées pour cette reconversion professionnelle en commun, c'est ce projet-là qui a remporté tous les suffrages. On a testé notre motivation et on comprend pourquoi pas mal de projets de distillerie artisanale tombent à l'eau, parce que d'un point de vue administratif, c'est un peu le parcours du combattant. On s'est accroché parce que vraiment on avait l'envie de mener ce projet à bien et qu'on est passionné.
Il y a l'alambic hein, qui vous attendait de toute façon, donc il fallait aller au bout.
Exactement, on avait la chance d'avoir un alambic alsacien qui nous attendait en Moselle, au fin fond de la Moselle. C'était un alambic qui nous avait tapé dans l'œil, un alambic à bain-marie. Nos vendeuses, qui étaient 3 ou 4 sœurs assez âgées, nous avaient promis qu'elles nous le mettaient de côté le temps qu'on fasse nos démarches. Et donc on a pu là aussi aller le chercher il y a presque un an maintenant. La satisfaction de revenir avec un alambic, de l'installer dans ses murs, était vraiment quelque chose d'incroyable.
Nathalie de Fombelle et Frédéric Merlet distillent pour le plaisir de la dégustation, du partage. On devine la fierté des épicuriens du cru de faire découvrir ces bonnes bouteilles à leur entourage. Frédéric Merlet avait quelques références familiales en matière de distillerie et s'épanouit complètement dans ce savant dosage.
Il y a pas mal de paramètres qui interviennent effectivement. On a cette question notamment de la saisonnalité qui est très très importante en fonction des produits qu'on veut développer, que ce soit des gins ou des liqueurs. Il y a toute une partie des matières premières, notamment fraîches, qui ne donnent pas toute l'année. Il y a la saisonnalité aussi avec des produits qui vont être plus consommés l'été. Donc par exemple un gin, les gens vont l'attendre dès le printemps. Il y a des liqueurs qui seront plus consommés à Noël, donc il faut être absolument prêt. Un exemple typique, la mandarine de Sicile qu'on utilise, elle est merveilleuse, mais elle donne à la fin de l'hiver, elle n'est pas prête en général au moment de Noël, donc on sait une anticipation quasiment un an à l'avance.
Dans la distillerie, c'est une vraie exploration finalement, là, le champ des possibles, il est infini.
Oui, oui, dans les grandes entreprises on parlerait de R&D, nous on fait notre tambouille, nos expériences effectivement, mais ceci dit avec beaucoup de précision, on est en permanence en train de tester des macérats, d'ingrédients, d'éléments pour voir un petit peu les fragrances qu'on va tirer. Il y a toujours ce travail un petit peu de parfumerie qui est sous-jacente à notre activité, hein. On va chercher des goûts, des odeurs, et on est en permanence en train de développer des idées, les mettre sur le papier, puis passer par cette petite phase d'expérimentation à petite échelle avant de la développer sur des volumes plus importants et la proposer à nos clients.
La distillerie Cornelius est donc en plein développement. Ne manquez pas l'occasion de déguster un bon gin ou une bonne liqueur made in La Forêt-sur-Sèvre, avec modération bien entendu. Vous ne le regretterez pas. Reportage signé Fabien Gazot. Un 10e rendez-vous pour apprendre à domestiquer sa peur à Thouars. Le 10e étrange week-end qui va se dérouler les jeudis 31 octobre. pile poil le jour d'Halloween, puis les jeudis 1er et 2 novembre, aura un défi à relever, celui d'égaler, voire de dépasser le record de fréquentation de 5500. C'était en 2022. L'association Avenir des Jeunes Touarçais, qui a lancé la mode il y a 10 ans maintenant, a mitonné un menu frisson et fantastique dont elle a le secret. Et justement, son président Laurent Larcher lève une partie du voile au micro-colline de Dominique Hérault, mais une petite partie seulement.
Cette année, pour la surface, on va revenir à la grandeur maximale, une quinzaine de salles. Cette année, on a fait le souhait, comme c'était une date anniversaire, de revenir sur des thèmes qui ont bien marché les années précédentes, donc un genre de best-of. Il y aura forcément de la nouveauté, mais on a gardé des thèmes vraiment qui ont marqué les gens au fil des années. On n'a pas envie que les gens sachent à l'avance ce qu'ils vont affronter. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de surprises aux gens, pour un maximum de plaisir, un maximum de peur, évidemment. Par tradition, on garde quand même une partie fantastique. Le frisson est évidemment dominant.
5 séances sont donc au programme à l'orangerie du château de Thouars pour hérisser le poil avec prudence pour les familles ou pour glisser vers l'épouvante côté adulte dans un labyrinthe revisité. Le tout à des tarifs qui, eux, n'ont rien d'effrayant.
On n'a pas souhaité augmenter le tarif de l'entrée, donc il reste à 2 euros. Par contre, on remet en place c'est le pass VIP, une sorte de coupe-fil. Du coup, les gens peuvent s'inscrire en amont via la maison du Touarçais sur Internet ou aller les rencontrer en physique. Il est à 6 euros avec une boisson offerte.
Pour faire partie de la fête de l'intérieur, on peut également se proposer comme bénévole auprès de l'Avenir Jeune Touarçais via Facebook. Les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au château de l'Europe, qui a séduit depuis 10 ans les visiteurs du Touarçais, du Bocage, de Gâtine, de tout le département et département limitrophes. Accrochez donc sur les agendas les 31 octobre, 1er et 2 novembre. Reportage signé Dominique Hérault. L'actualité sportive, Cholet Basket retrouve la compétition ce soir à l'occasion de la 3e journée de la FIBA Europe Cup. Les hommes de Fabrice Lefrançois reçoivent à 20h30 ce mercredi les Roumains de Constanța, premier du groupe C et encore invaincu dans la compétition. CB aura le statut de favori ce soir pour ce 3e match de Coupe d'Europe face à un adversaire qui n'a pas encore connu la victoire dans cette compétition. L'ailier Choletais Gérald Ayaï au micro-colline de François Larue.
On est vraiment concentré sur le processus, sur les ingrédients à mettre pour marquer. Du coup, peu importe le calibre de l'équipe en face, voilà, on va se concentrer sur l'intensité, la communication, l'énergie, le mouvement de balle. Puis après, voilà, peu importe l'adversaire, au final, voilà, le score sera tel quel, mais nous, ce qu'on veut, c'est proposer du beau basket, surtout à domicile pour nos fans. Il va falloir, dès le début, être bon, parce que voilà, même si les équipes, sur les précédents matchs, ils se sont fait un peu blow out, ils ont pris de gros écarts, il ne faut pas qu'on soit l'équipe du déclic. On veut vraiment pas être cette équipe du déclic et on veut continuer notre marche en avant en FIBA World Cup.
Sur les baskets face aux Roumains de Constanța en FIBA Europe Cup, c'est donc ce soir à partir de 20h30, match qui se jouera à guichet fermé et qui sera à suivre en direct sur Colline avec Vincent Nori et François Larue. Toujours au sujet de Cholet Basket, selon les chiffres publiés hier après-midi par la Ligue, le club des Mauges présente le 8e budget de la Betclic Elite avec 6 389 000 euros, soit une évolution de 7%, près de 430 000 euros. En revanche, la masse salariale reste stable, CB étant sur ce point en 13e position dans le championnat français. En comparaison, la masse salariale de Monaco est quasiment 10 fois supérieure.